L'Amérique tarit le flux de l'aide de certaines munitions alors que les frappes de drones et de missiles russes battent de manière répétée des records de volume depuis le début de la guerre. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, aurait déclaré à la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, que Pékin considérerait une défaite de Moscou en Ukraine comme une issue inacceptable au conflit. Donald Trump continue d'atermoyer sur la question de sanctions supplémentaires contre la Russie, ses précédents délais étant restés lettre morte et quoique son ton à l'égard de Poutine, notamment au cours de la crise en Iran, soit apparu de plus en plus acrimonieux ces derniers temps. L'OTAN s'est accordée pour augmenter à 5% du PIB le budget militaire de ses membres, mais à l'Union européenne, le mécanisme Rearm Europe est déjà la cause de frictions institutionnelles entre le Parlement et la Commission, cependant que Poutine annonce, quant à lui, dans un contexte d'essoufflement de l'économie russe, une baisse du poids de la dépense militaire pour l'an prochain sans que l'on sache bien de quoi il retourne. Pendant ce temps, foin de grandes offensives impressionnantes côté russe, mais poursuite active du grignotage et ouverture de nouveaux théâtres, comme ces derniers jours avec un nouveau point d'invasion dans la région de Kharkiv. Par ailleurs, alors que les chars russes semblent de plus en plus absents du front, il semble que la production atteigne de nouveaux sommets et l'on se demande si la Russie n'est pas en train de reconstituer une réserve stratégique de blindés modernes. Et pour faire quoi? Peut-être tenir 5 minutes de plus qui décideraient de l'issue du match. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 6 juillet 2025, il est 21h39 et nous sommes en compagnie de l'interceptable Léo Portal. Comment vas-tu, mon cher Léo?
J'ai arraché toutes mes dents, comme ça le problème est réglé.
Ah, c'est une bonne c'est une bonne idée, c'est un peu raide comme private joke, mais
J'ai que des idées de ouf. Après, j'avais dit ici que j'avais une rage de dents il y a 2 semaines, donc ceux
mais
qui
ça.
suivent comprendront.
Mais ça passe, les vrais savent, comme on dit. Ce soir, donc, c'est notre live de la semaine qui sera naturellement, comme d'habitude, suivi du live privé des souscripteurs dans lequel nous répondrons à toutes vos questions, les questions des souscripteurs, et on répondra aux autres questions dont à la fin de cette émission. Si. Cette émission, je pense que la dernière émission qu'on a fait sur le conflit, c'était il y a un mois. Lors des frappes et de ce qu'on appelle le Pearl Harbor russe, une expression sans doute un petit peu exagérée, même si ça avait été un moment impressionnant en raison des frappes sur les bombardiers stratégiques russes, dont il semble en réalité que ce soit plutôt ceux à hélice qui ont été touchés plutôt que les autres, mais ça avait naturellement été un moment important. Depuis, on n'a pas vu. Et ça, c'est quand même la première observation, parce que depuis plusieurs mois maintenant, on entendait de plus en plus parler de la probable offensive d'été russe. Naturellement, comme à chaque fois qu'on parle de grande offensive, on s'attendait à quelque chose de monstrueux. En fait, il n'est pas du tout impossible que cette offensive ait effectivement commencé. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'offensive au sens où on l'entend, où on l'imagine, avec tout d'un coup une poussée forte sur un point et une percée qui amène éventuellement une dislocation du dispositif ennemi, au moins local. Tout simplement, en fait, parce que c'est vraisemblablement impossible. C'est-à-dire que l'état du champ de bataille, la situation tactique sur le front, fait que il est impossible, et ça on le sait depuis un moment, depuis pratiquement le début du conflit, il est impossible de procéder à des concentrations de troupes et de moyens sans que ça se voit. Donc, impossible de faire des effets de surprise. Et puis en plus, surtout, déjà, c'est tout de suite, c'est su. Et avec les moyens actuels de guerre, notamment les nouveaux systèmes d'armes, l'emploi des HIMARS côté ukrainien, l'artillerie côté russe, et bien sûr l'utilisation des drones, qui sont désormais tellement nombreux qu'on utilise beaucoup de drones FPV sur une cible individuelle unique, c'est-à-dire pour tuer un soldat, on utilise un drone, hein, on fait ça maintenant. Et bien naturellement, il n'y a pas de possibilité de ce genre d'offensive. Donc la situation est en fait bloquée, et le seul moyen d'avancer, c'est précisément ce fameux grignotage qu'opère la Russie, c'est-à-dire que du coup, on avance un petit peu partout par beaucoup d'attaques dispersées parce que c'est le meilleur moyen d'éviter ces pertes lourdes tout en continuant d'avancer. Sur la carte, ça donne des avancées qui ne sont pas forcément spectaculaires puisque ce sont des petites avancées un peu partout, alors que naturellement, ce qui donne plutôt des, on va dire, ce qui est photogénique en matière militaire ou médiagénique, c'est d'avoir une belle percée à un endroit et de donner l'impression de chevaucher fantastique. Et ça, naturellement, on n'en voit pas. Néanmoins, les Russes, actuellement, au dernier décompte, ont conquis pratiquement 550 km² lors du dernier mois. Ils ont retrouvé, voire dépassé le niveau qu'ils avaient atteint en novembre. Et donc, l'offensive d'été, en fait, c'est plutôt une reprise des opérations sur toute la ligne de front, qui est assez coûteuse en hommes. Mais là aussi, il y a des grosses questions de savoir quel est l'effet sur le stock. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, lui, annonce que l'armée russe recrute entre 50 et 60 000 hommes par mois, alors que les pertes totales seraient en gros par mois de, c'est-à-dire morts et blessés, hein, d'environ 10 à 15 000, ce qui, si le ratio de recrutement est bien celui de Vladimir Poutine, même en fourchette basse 50 000, ça veut dire que vous gagnez plus de 30 000 hommes par mois sur le volume. Ça fait à l'année, vous avez augmenté votre volume d'hommes de 350 000 hommes, ce qui est quand même extrêmement important. Il est peu probable que les Ukrainiens soient capables de suivre là-dessus. Et donc naturellement, si c'est ça, on comprend les ambitions, on va dire, russes, en particulier telles qu'elles ont été relayées par les Ukrainiens. J'avais montré la carte qui était sortie il y a quelques semaines, qui montrait quels étaient vraisemblablement le calendrier russe dans la prise de terrain. Mais même à la limite, si on conserve, semble-t-il, une fourchette assez basse de recrutement qui était celle qui était annoncée l'année dernière, c'est-à-dire 35 000 hommes par mois, grosso modo, le stock grossit. Donc ça, c'est le souci, c'est qu'au niveau de la main-d'œuvre, en tout cas, l'effort russe sur le front ne s'essouffle pas. Il y a aussi, je l'ai mentionné en intro, la question des tanks qui sont construits. Alors ça, c'est un truc, j'en ai parlé régulièrement. On n'avait plus d'infos depuis un bon moment. Enfin, je n'avais pas trouvé de nouvelles études. Les dernières devaient dater de début 2024, en fait, avec des chiffres à peu près sûrs en 2023. Qui indiquait que, grosso modo, les Russes arrivaient à sortir 120 tanks par mois, dont 20 tanks nouveaux, c'est-à-dire en gros entre 200 et 240 tanks par an, et une centaine de tanks refités, c'est-à-dire récupérés dans les vieux stocks, donc ce n'est pas forcément la très bonne qualité, ça pouvait être des vieux tanks, des T-62, etc. Donc ça faisait du volume, mais ça faisait pas forcément de la qualité, même si c'était censé être un peu remis à niveau, mais enfin voilà, c'était pas forcément génial. Et là, on a un article qui est sorti dans le Figaro fin juin, le 29 juin dernier, qui indiquait que d'après les dernières études, la Russie en fait sera en mesure de fabriquer 300 chars T-90, uniquement les T-90, 9 par an. Or, les T-90 sont des chars, sont les chars les plus modernes que sont capables de produire les Russes, puisque le T-14 Armata n'a jamais été lancé en production et le plan a vraisemblablement été paralysé depuis le début de la guerre en Ukraine. D'où les inquiétudes qu'on a entendues dans les états-majors européens et même d'Emmanuel Macron qui avait directement relayé ça, disant qu'on pouvait s'inquiéter des stocks de chars que refaisait la Russie. Alors d'un certain côté, on peut se demander est-ce que c'est tellement important, vu à quel point on a vu brûler des chars frappés par des drones en Ukraine, est-ce que continuer à fabriquer des chars comme ça, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer sur les drones? Je suis rigoureusement incapable de répondre à cette question. Je ne suis pas technicien de la chose militaire, mais vraisemblablement, en tout cas, les Russes ne le pensent pas puisqu'ils continuent à fabriquer des chars. Il y a aussi vraisemblablement la question du fait que le char est extrêmement vulnérable dans le contexte actuel, qui est justement les endroits qui grouillent de drones, etc. En revanche, si jamais vous choisissez tout d'un coup de changer de braquet, alors soit si vous arrivez à percer justement cette espèce de couverture de drone en ayant une supériorité de drone vous-même écrasante, on peut penser qu'à ce moment-là, vos chars reprendraient de l'intérêt, donc votre réserve pourrait percer, donc cette éventuelle réserve qui est en train de se constituer, ça peut être en vue justement à un moment d'arriver à obtenir une percée en Ukraine, donc d'utiliser cette réserve-là. Ça peut aussi être l'idée de les utiliser dans un endroit ou contre un ennemi qui n'a pas la maîtrise ou le volume de drones qu'ont les Ukrainiens. Et là, forcément, on se tourne vers d'autres risques de menaces, en particulier directement contre l'OTAN et donc éventuellement dans les pays baltes. Voilà. Il y a aussi une autre option encore différente qui est simplement que les Russes reconstituent une réserve de chars à visée défensive, c'est-à-dire pour éviter que si jamais, vu qu'il y a une grande peur russe, malgré tout, de subir une offensive sur leur propre territoire et l'idée que l'OTAN, quelque part, voudrait les envahir, comme l'avaient fait les Allemands à deux reprises le siècle passé, eh bien, ça peut aussi être ça la perspective. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant surtout dans cette enquête, c'est le fait que depuis un an et demi, l'appareil productif industriel russe a continué de monter en puissance. On le savait sur les munitions. Mark Rutte a beaucoup insisté là-dessus en disant que les Russes étaient désormais capables de produire 3 ou 4 fois plus de munitions que l'OTAN. Et ceci vient sans doute en partie dans l'explication de cette décision américaine qui a été prise de cesser la fourniture à l'Ukraine d'un certain nombre. Alors, c'était assez confus sur le détail encore de ce qui était décidé de ne plus fournir. La question de savoir qui a pris cette décision était également confuse. J'ai pu lire que ça serait une décision qui aurait été prise par Pete Hegseth, le chef du Pentagone, le secrétaire à la défense américain. Il est peu probable que Pete Hegseth ait pris une telle décision sans en référer naturellement à Donald Trump. La nouveauté, si vous voulez, c'est quand même cette excuse donnée du fait que, en gros, les Américains commenceraient à avoir peur pour leur propre stock. Et ça, c'est quand même important, parce qu'en fait, j'ai entendu deux types d'analyses de ça. Certains qui ont un point de vue en disant c'est pas du tout vrai, en réalité c'est une excuse, etc. Ça en général c'est plutôt des commentateurs, genre journalistes qui sont très anti-Trump qui vont dire ça, mais je pense qu'ils n'ont pas une connaissance forcément extrêmement poussée de la question technique. Et les techniciens, et je pense en particulier à Yakovlev, qui n'est pas suspect de pro-russisme, n'est-ce pas? Ni de pro-trumpisme, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que son opinion était intéressante. C'est qu'il disait l'autre jour, sur LCI, je crois, que d'après lui, c'était vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, les Américains commencent à avoir des problèmes, notamment à cause de tout ce qu'ils ont dû fournir. Déjà, ils ont fourni des choses à l'Ukraine, mais ils ont dû aussi fournir des quantités importantes aux Israéliens dans le cadre de l'attaque contre l'Iran. Ils ont aussi déployé un certain nombre de défenses antiaériennes, donc vraisemblablement avec les munitions qui vont avec dans l'ensemble du Moyen-Orient, il y a quelques semaines avant les opérations en Iran. Et donc forcément, les stocks à la maison doivent être de plus en plus bas et ça commence à être inquiétant. Et ça dit quand même quelque chose, c'est que autant une décision de ce genre-là qui était prise purement par Trump, on pouvait se dire c'est une décision politique. Alors soit c'est une ânerie, soit c'est un calcul, ce que vous voulez, mais enfin en tout cas, une décision politique comme ça se change du jour au lendemain. Si c'est une décision qui est prise matériellement parce que vous commencez à manquer de stock et que vous avez du mal à le renouveler, là c'est un autre problème. Surtout que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui parlent éventuellement de montée en puissance de la capacité de production américaine. Alors oui, certes, ça doit exister. Maintenant, le grand problème des États-Unis par rapport à ce qu'ils étaient en 1940, c'est qu'en 1940, ils étaient une puissance industrielle absolument colossale, la première puissance industrielle, et une puissance industrielle civile, ça se réoriente. Vous pouvez utiliser vos machines et tout votre appareil industriel, vos ouvriers qualifiés, pour vous mettre à produire de l'équipement militaire. Le problème, c'est que cet avantage-là, il est aujourd'hui plutôt côté chinois que côté américain, en raison des problèmes de désindustrialisation qu'il y a eu. Et donc forcément, ça pose des questions. Et donc dans ce contexte-là, les révélations, je vais mettre ça entre guillemets, qui sont sorties du côté chinois, naturellement, ont de quoi inquiéter. Pourquoi je mettrais ces révélations entre guillemets? Ben parce que, en fait, c'est exactement ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire, dans les semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire quand on a vu les premières difficultés russes en Ukraine, quand même, on s'est demandé, beaucoup dans les médias si l'armée russe n'était pas déjà, après un mois de guerre, au bord de l'effondrement. Hein. Ensuite, il y a eu le repli autour de Kiev, etc. Il y avait des gens, et en particulier en Europe, et j'avais eu l'occasion de le commenter à l'époque sur la chaîne, qui avaient dit, mais il faut d'ailleurs, c'était la position de Macron notamment, bah, écoutez, il faut aller parler aux Chinois et demander aux Chinois de raisonner Vladimir Poutine pour qu'il arrête sa guerre, etc. Et un truc que j'avais dit depuis le début, mais et qu'avaient dit, je pense, tous les gens qui ne se font pas d'illusions sur la Chine et qui ont une vague idée des rapports stratégiques entre la Chine et la Russie, c'est que ceci n'arriverait jamais. C'est-à-dire que cette guerre, derrière la position de neutralité affichée par la Chine, cette guerre était extrêmement importante pour la Chine à plus d'un titre. Le premier, c'est que si jamais la Russie perdait cette guerre et que la Russie s'effondrait, la Chine serait terriblement seule stratégiquement à l'échelle mondiale. Ça reviendrait pratiquement à se retrouver avec l'OTAN sur sa frontière nord, hein, parce qu'un régime de Poutine qui s'effondrerait, ça serait très rapidement un changement de régime en Russie et probablement un régime pro-occidental qui serait mis en place ou qui sera encouragé à se mettre en place. Et donc à partir de là, forcément, la Chine se retrouverait dans une situation extrêmement compliquée. Et pourrait dire en fait adieu à tous ses rêves de modification de l'ordre mondial à son profit, puisque elle aurait perdu son principal allié objectif contre la domination américaine. Donc c'était très peu probable que la Chine laisse tomber la Russie. Alors que inversement, cette guerre d'Ukraine, à partir du moment où les Occidentaux s'engageraient aux côtés de l'Ukraine et essaieraient de contenir la Russie, à partir de là, pour la Chine, ça devenait très intéressant parce que la guerre en Ukraine devenait une espèce de gigantesque guerre par proxy à l'échelle mondiale entre la Chine, via la Russie, contre les Occidentaux, et notamment les Américains, en Ukraine. Et qui permettrait à la Chine d'épuiser ben, les stocks d'armement, de coûter cher aux Occidentaux, de fatiguer leurs opinions publiques avec la guerre, etc. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a vu en fait depuis 3 ans. Et donc, que les Chinois commencent à le dire maintenant, alors c'est assez intéressant en soi, pourquoi est-ce qu'ils le disent maintenant? Est-ce que c'est pour pousser les Européens à négocier? Est-ce que c'est parce que, comme les Européens ont fait la grosse erreur dans le cadre de la brouille des premiers mois de la présidence Trump, de se retourner vers la Chine pour essayer de négocier, notamment dans le cadre de la guerre commerciale, de négocier un partenariat, est-ce que du coup la Chine commence à utiliser ça pour favoriser sa vision du conflit? C'est tout à fait plausible, ça serait assez clair, et il faut voir que c'est très intéressant parce que, en gros, les termes qui auraient été employés par le ministre des Affaires étrangères chinois pour expliquer le pourquoi cette guerre ne pouvait pas se terminer au détriment de la Russie, eh ben, c'est exactement ce qu'on pouvait dire à l'époque. C'est-à-dire que pour la Chine, c'est un moyen de fatiguer et d'occuper les Occidentaux et de les éloigner de sa propre préoccupation, c'est-à-dire Taïwan, la mer de Chine et de manière générale l'Asie. C'est-à-dire qu'en gros, plus ils sont occupés, plus les Occidentaux sont occupés en Europe, moins ils sont occupés en Asie. C'est le vieux jeu qui se fait là-dessus. Donc dans ce contexte-là, le fait que les Américains commencent à s'inquiéter du fait qu'il manque peut-être d'intercepteurs et de munitions de tout type, Ça rejoint tout à fait cette préoccupation-là en miroir. C'est-à-dire que ça veut dire que de leur côté, les Américains eux-mêmes se disent, ben, cette guerre en Europe commence à nous coûter cher et commence à nous coûter beaucoup en matériel, alors qu'on en aurait besoin pour contrer la Chine. Et que la Chine ben, se rend bien compte que justement, on est en train de se fatiguer de ce côté-là. La Chine, depuis plusieurs années, a justement soutenu la Russie. Elle l'a aidée à contourner un certain nombre de sanctions. Ça a été dit timidement, beaucoup trop timidement, par les Occidentaux qui ont pointé un certain nombre d'entreprises chinoises, de méthodes de contournement des sanctions, etc., notamment via l'Asie centrale. D'ailleurs, l'Asie centrale a aussi servi à la Russie à contourner les sanctions européennes pour se fournir, notamment parce que quand vous regardez le Kirghizistan, le Tadjikistan, etc., tout d'un coup, qui se sont mis à multiplier par 10 leurs importations de camions à partir de fin 2022, ben, vous comprenez que ces camions ne restaient probablement pas au Kirghizistan ou au Tadjikistan. Donc, ce sont des importations qui sont venues nourrir la machine de guerre russe. Et les Chinois ont sans doute, d'une manière ou d'une autre, fourni les composants électroniques dont les Russes avaient besoin pour maintenir leur production de missiles et d'électronique de guerre. Vous savez que les Chinois, petit à petit, développent leur propre fabrication de semi-conducteurs parce qu'ils craignent justement d'être mis en dehors du circuit de Taïwan. D'ailleurs, Taïwan a mis de nouvelles entreprises sur sa liste noire, notamment Huawei. Avec pour but, et vraisemblablement sous pression américaine, avec pour but d'empêcher la Chine de développer trop vite ses capacités, notamment en matière d'intelligence artificielle. Donc on retrouve là encore la stratégie Reagan contre l'URSS, qui était à l'époque qu'il s'agissait de faire un embargo, notamment sur les technologies de forage, qui étaient en train de. Il y avait beaucoup d'innovations là-dessus aux États-Unis à l'époque. Hein, c'est ça qui, plus tard, ensuite, à la fin des années 90, a donné l'exploitation des pétroles de schiste, etc., qui sont en plein boom aujourd'hui encore. Mais il y avait aussi d'autres types d'innovations. Et le but des Américains, c'était d'empêcher l'URSS d'accéder à ces technologies parce que sinon, parce que l'exportation d'hydrocarbures était le principal moyen pour l'URSS de se fournir en devises étrangères. Et donc, pour éviter ça, eh bien, il fallait faire en sorte que l'industrie pétrolière soviétique périclite en n'ayant pas accès à ces nouvelles technologies. Voilà. Il y avait d'autres technologies informatiques également qui étaient mises sous embargo à l'époque de Reagan. Et donc, on retrouve cette stratégie à nouveau à l'encontre de la Chine. Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est que on est en train de voir. Alors, c'est déjà le cas avant, mais c'est en train de s'officialiser finalement à quel point la guerre en Ukraine est une espèce d'abcès de fixation ou de pivot comme ça entre le bloc et les Occidentaux. En particulier maintenant que la guerre en Iran a été écourtée, on va dire, par Donald Trump. Donc tout ceci entre en résonance, ce que disent les Chinois, ce que disent les Américains, et les difficultés de la guerre en Ukraine. Le chef d'état-major français, le général Burcard, a déclaré, je crois que c'est dans une commission parlementaire, que il a souligné toutes les difficultés. D'ailleurs, je crois que ça résonnait assez au genre de choses qu'avait déjà expliqué Cavoli devant le Sénat américain. Savoir que oui, l'armée russe a d'énormes difficultés en Ukraine, qui perd énormément d'hommes, etc. Mais qu'il y a un risque stratégique, et que ce risque stratégique, c'est que l'armée russe tienne 5 minutes de plus. Parce que tenir 5 minutes de plus, ben, c'est ce qui peut vous permettre de remporter la victoire. Et le simple fait de tenir 5 minutes de plus, ça peut vous donner accès à une victoire totale. Et le fait est que Vladimir Poutine, il semble qu'il l'ait signifié à Donald Trump lors de leur dernier entretien téléphonique, en fait, ne recule sur absolument rien. Alors, sans surprise, j'ai envie de dire, hein, ça surprend que ceux qui seront surpris, mais ne recule sur absolument rien et est toujours extrêmement, même maximaliste dans ses velléités guerrières. Je pense qu'en plus, Donald Trump a effectivement raté totalement le créneau pour basculer sur un mode de dissuasion supplémentaire à son encontre. Et donc maintenant, Vladimir Poutine, peut-être à peu près convaincu. Je pense qu'il avait un doute avant, hein, très honnêtement. Et d'ailleurs, je vous avais dit que c'est pour ça que je pense qu'il préférait Biden à Trump. Et il avait un doute sur la réaction possible de Trump. Et qu'avec ses atermoiements, Trump a fini par le convaincre qu'en fait, il ne ferait rien, tout simplement. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça, l'avenir le dira. Le premier problème, c'est ce que cela change sur le calcul que fait Vladimir Poutine lui-même. Parce que les acteurs dans ce genre de jeu, calculent en fonction des informations qu'ils ont ou qu'ils croient avoir, et des perceptions qu'ils ont. Je pense qu'à ce stade, on peut dire, sans trop craindre de se tromper, que sur le dossier ukrainien, Vladimir Poutine estime que Donald Trump est faible et que Donald Trump ne bougera pas. Il lui reste peut-être un doute là-dessus, mais avec la pression qui est mise par le mouvement MAGA, je pense d'une certaine manière que ce qui s'est passé en Iran, du point de vue de Vladimir Poutine, en réalité, a plus l'effet d'une démonstration de faiblesse que de force. Pourquoi? Parce que, certes, Donald Trump, je pense que ce qu'a fait Donald Trump en Iran, en fait, est de nature à faire peur aux Chinois, mais à rassurer les Russes. Dans quel sens? Alors, mais tout simplement que il a fait une démonstration de force, de puissance technologique avec l'usage du B2. Et donc, effectivement, la frappe a été impressionnante, spectaculaire et redoutable. Et ça montre ça peut montrer surtout aux Chinois qui, encore une fois, faut bien se rendre compte, vous avez deux régimes entre la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping qui ont comment dire, une psychologie tout à fait différente. La Russie de Vladimir Poutine, c'est un impérialisme revanchard. Donc, il est audacieux, il est agressif. Il est escalatoire, il est joueur. Joueur au sens, il est prêt à miser gros, quoi. Et si jamais son pari se trouve foiré, eh bien, il abandonne pas. Il réescalade encore, il en rajoute. Et c'est ce qu'il a fait depuis 3 ans, hein, très clairement. Encore une fois, ça c'est un truc, j'ai eu des doutes, hein, comme tout le monde, quand on voyait à quel point la Russie foirait, je le répète, j'avais pu me dire, peut-être que finalement le modèle marche pas tellement. Bah, jusqu'ici, le modèle, il marche. C'est-à-dire qu'en tout cas, alors, ça veut pas dire que les Russes sont capables de faire des miracles, mais ils tiennent et ils ont été capables de développer leur base industrielle de défense et de tenir la dragée haute. Et ils deviennent en fait de plus en plus dangereux de ce point de vue-là face à l'Europe. J'y reviendrai dans un instant. Mais de l'autre côté, vous avez le régime chinois qui, lui, est un ancien régime. À qui la guerre, malgré tout, ça fait peur. Donc il y a un certain nombre d'ambitions, mais qui en même temps est beaucoup plus prudent. Et dans ce cas-là, avoir un joueur imprévisible et qui risque de réescalader naturellement, ça joue des deux côtés. Donc ça pouvait aussi être une dissuasion, encore une fois. D'ailleurs, Poutine préfère que les choses soient prévisibles. Simplement, ce qu'a montré surtout la séquence en Iran avec Donald Trump, c'est que Donald Trump a vraisemblablement envisagé pendant un moment de rejoindre pleinement la guerre aux côtés d'Israël pour faire tomber le régime des mollahs. Je pense que c'est ce qui s'est passé, vu ses déclarations, il y a pensé, il y a au moins pensé. Finalement, il a décidé de faire ce qu'il a fait, il est revenu sur sa position de base qui était négociation, etc., sous la pression de son opinion publique, qui est isolationniste, qui ne veut pas de nouvelle guerre au Moyen-Orient, etc. Et donc, Donald Trump, je pense, dans cette séquence-là, a en fait essentiellement plié et cherché à satisfaire son électorat. Et ça, je pense que dans l'œil de Vladimir Poutine, on n'est pas loin de ce qui s'est passé en Afghanistan sous Biden. C'est-à-dire le fait que bah, les Américains ils bougeront pas. Ils vont peut-être balancer un truc, taper pour le principe, mais ils n'ont pas envie d'y aller. Ils n'ont pas envie d'y aller, donc moi je peux y aller. Et au pire, il m'arrivera la même chose qui est arrivée aux Iraniens. Enfin, ils n'oseront de toute façon pas me faire la même chose parce que moi, j'ai des missiles nucléaires. Mais même si jamais ils tapaient un peu ou qu'ils aidaient à taper sur là où ils peuvent taper, c'est-à-dire en Ukraine, ça ira pas chercher très loin. Il suffira de faire le dos rond le temps qu'ils le fassent, hein, et ça durera que quelques jours parce que leur opinion publique voudra pas que ce soit une vraie guerre. Et donc, dans l'esprit d'un type comme Vladimir Poutine, c'est je peux y aller. Et de fait, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne cesse d'y aller. L'autre jour, il y a eu 500 vecteurs, je crois, pratiquement, qui ont frappé l'Ukraine. Donc, on est sur. Si vous vous souvenez des grosses vagues de frappe de l'année 2022, on était autour de 100, 120 vecteurs. Là, avec 500 vecteurs, donc missiles plus drone Shahed, en plus, qui sont un petit peu améliorés maintenant par les Russes, je crois qu'il y en a qui sont en réaction. Ben ça fait du fois 3 fois 4 quand même facilement. Et donc les volumes continuent à augmenter et on sait que désormais la production russe, notamment grâce aux machines outils livrées par les Chinois aussi, la production russe de drones a vraisemblablement dépassé la production ukrainienne. Et donc, il est vraisemblable que dans les mois qui viennent, l'avantage ukrainien en drone, qui permettait de compenser en partie l'avantage russe en matière d'artillerie, soit également surcompensé par les Russes et à ce moment-là, qu'il y ait effectivement des difficultés. Et pourquoi c'est très grave? Parce que si, comme l'a dit Burkhard, la Russie arrivait à tenir 5 minutes de plus, c'est-à-dire à obtenir des effondrements locaux du front en Ukraine, à progresser rapidement, même s'il n'arrivait pas à faire tomber toute l'Ukraine, hein, mais ça risque de poser des très gros problèmes politiques chez nous en Europe. Et ça, vous savez que c'est le schéma que je défends depuis ça doit faire 2 ans et demi maintenant, c'est-à-dire j'en avais parlé à la fin 2022, c'était peu après l'attaque l'attaque d'automne par les Ukrainiens, la contre-offensive qui avait fait reculer fortement les Russes. C'est-à-dire l'idée que la principale victoire qui peut être remportée par les Russes serait une victoire politique finalement d'affaiblissement de l'Europe, de division interne de l'Europe, et donc d'ouverture d'un champ, on va dire, de progression politique, notamment en Europe orientale, qui serait partiellement matérielle, par exemple, avec une invasion des Pays-Baltes, qui pourrait être faite. On a parlé beaucoup, alors je sais, je j'avancerai pas de date, hein, mais on a parlé beaucoup de l'exercice ZAPAD qui devait se tenir, vous savez, on disait qu'il devait se tenir en Biélorussie, puis finalement il doit se tenir plutôt dans la partie orientale de la Biélorussie. Ça aurait été voulu par Loukachenko pour pas faire trop peur. Donc, est-ce qu'il se passera quelque chose, qu'il se passera rien, on ne sait pas. Maintenant, c'est ça aussi qui inquiète les états-majors occidentaux, c'est que les Russes ont augmenté leur dispositif le long de la frontière finlandaise, le long de la frontière des Pays-Baltes, et que s'ils ont une réserve de blindés et qu'on finit par la voir apparaître, ça peut être assez inquiétant, notamment dans les Pays-Baltes, parce que malgré tout, même si la présence a été renforcée de l'OTAN, il n'y a clairement pas de quoi lutter. Et donc, si à un moment les Russes décident effectivement d'aller tester in fine la résistance de politique de l'Europe en fait, hein, eh bien ça risque de poser des problèmes à l'intérieur de l'Europe. Encore une fois, puisque comme je l'ai évoqué, je ne vais pas revenir dessus en détail, mais j'en ai parlé la semaine dernière, il n'y a pas eu de nouveau là-dessus. On ne sait pas encore si Roberta Metsola va effectivement suivre le souhait du Parlement. Ce serait quand même pas normal que la présidente du Parlement européen ne suive pas son souhait. Se lancera dans des poursuites contre la Commission sur la question du mécanisme SAFE et des 150 milliards d'armements. Mais le fait qu'on en soit là, c'est-à-dire au risque d'une crise institutionnelle et juridique entre l'exécutif et le législatif européen, alors que c'est le sujet, ce sont des dépenses de guerre, en fait, hein, parce que c'est ça, on n'est pas encore en guerre, mais c'est tout comme, je veux dire, si on considère que le modèle est celui de la guerre froide, alors dépenser pour s'armer, la course aux armements, c'est en soi déjà la guerre entre puissances nucléaires. Hein. Et puis celui qui ne peut pas suivre la course aux armements est celui qui s'effondre. Alors on ne s'est pas battu, mais il y a eu un effet stratégique, qui est le même que celui d'une guerre gagnée, en fait. Hein. Encore une fois, l'URSS s'est effondrée et a connu les mêmes déboires que l'Allemagne de 1918, c'est-à-dire une révolution nationale. Donc le fait qu'il y ait déjà un problème là-dessus, alors que, encore une fois, la Russie, elle, augmente sa production, c'est assez inquiétant. Dans ce contexte, l'annonce de Vladimir Poutine de la baisse du poids de l'armée dans les dépenses, alors ça peut être de l'esbrouffe, ça peut être pour dire, regardez, l'OTAN augmente ses dépenses, moi je les baisse, on va dire, à l'égard de l'ensemble du monde, en particulier les pays du Sud, c'est un moyen de dire, regardez, c'est bien la preuve que c'est pas moi qui suis agressif. Il y a aussi un moyen interne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Russie, comme il y a pas mal de gens dans la société civile, les industriels qui commencent à s'inquiéter des difficultés budgétaires, de l'inflation, etc., eh ben c'est un moyen d'essayer de les rassurer en disant, histoire qu'il y ait pas, que ça rue pas trop dans les brancards en interne à cause de la guerre. Et puis il y a la dernière hypothèse aussi, qui est celle de la Maskirovka, c'est-à-dire le fait qu'il espère convaincre au moins une partie de l'opinion, voire des dirigeants européens, que il est déjà en train de s'essouffler, donc il pourra pas, il est obligé de se concentrer sur l'Ukraine, donc il pourra pas aller taper ailleurs. Finalement, ensuite aller taper ailleurs, c'est possible aussi, sachant que, je le rappelle, Si jamais la Russie est véritablement en train de s'essouffler économiquement, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle si on veut, mais c'est pas une bonne nouvelle dans le sens où ce qui ca caractérisait l'Allemagne d'Hitler en 1939 comme la France de Napoléon en 1805, c'est que c'était deux pays qui étaient au bord de la faillite et qui ne pouvaient espérer, pour éviter la faillite, que se lancer dans la prédation à grande échelle à l'extérieur. Donc la guerre de Pologne, enfin l'invasion de la Pologne pour l'Allemagne et la défaite de l'Autriche par Austerlitz ont été des moyens pour ensuite avec les indemnités de guerre que Napoléon a obligé de payer ont été des moyens en fait pour l'État l'impérialiste revanchard de se renflouer sur le dos de ceux qu'il a battus. Donc il faut bien se rendre compte de ça, c'est qu'à un moment Vladimir Poutine il va pas accepter de tomber sur une faillite. Si jamais il est au bord de la faillite, il donnera absolument tout ce qu'il a. Et donc à ce moment-là, je pense qu'il irait jusqu'à mobiliser même, hein, parce que c'est Arestovitch l'autre jour qui a dit que l'Ukrainien, qui a dit que en gros, alors ça a été repris par beaucoup de pro-russes naturellement, en disant vous voyez, en fait les Russes sont gentils, etc. En fait trop facile, etc. Parce que Arestovitch a dit qu'en gros la Russie pourrait écraser l'Ukraine d'une certaine manière que et qu'en gros, elle le voulait pas parce que ben, si elle le voulait, elle mobiliserait 2 millions d'hommes, etc. Et donc, elle pourrait écraser l'Ukraine. Alors, ce qui est probablement vrai, mais c'est un petit peu le même genre de raisonnement limité que quand vous savez, vous avez des gens qui vous expliquent que la dette de l'État français, c'est pas un problème parce que les Français ont beaucoup d'épargne et qu'au pire du pire, il suffira à l'État de saisir l'épargne des Français et puis pour payer la dette. Le problème, c'est que ça néglige un peu le fait que ça a un coût de faire ce genre de manœuvre. Et que de la même manière que si jamais vous décidez du jour au lendemain de saisir la totalité de l'épargne des Français pour rembourser la dette, ben, vous aurez probablement une crise institutionnelle terrible et une révolution. Probablement ce qui va arriver. Et que Vladimir Poutine sait très bien que si jamais il se met à mobiliser, c'est très dangereux pour son propre pouvoir. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait de cette manière-là. Depuis 3 ans. Maintenant, si jamais le pouvoir russe arrivait, pour une raison de faillite financière, à être quasi certain qu'il risque de s'effondrer, ben à ce moment-là, ça devient rentable politiquement, au moins d'essayer de faire un truc qui fait que vous êtes sûr que vous allez vous effondrer. C'est-à-dire que vous êtes sûr que vous allez vous effondrer à cause du truc financier, vous savez qu'il y a un risque de vous effondrer si jamais vous mobilisez vos 2 millions d'hommes, et bien vous mobilisez les 2 millions d'hommes pour essayer de vous rembourser en remportant une victoire totale, que ce soit en Ukraine, etc. Ce genre de choses. La dynamique de l'impérialiste revanchard porte ça, si vous voulez. Elle porte ça à la fois au niveau des élites qui dirigent la puissance de l'impérialiste revanchard, et à la fois au niveau de la population qui en fait est capable d'accepter ça. Capable d'accepter ça parce que elle a une perception de ce que. Si c'est pas ça, ça sera l'équivalent d'une défaite comme celle qu'elle a déjà connue dans sa jeunesse, en l'occurrence les années 90 en Russie, et personne ne veut revenir aux années 90 en Russie. Donc, du côté de Vladimir Poutine, voilà, c'est très difficile de tirer un enseignement de cette question de savoir de la baisse du budget militaire annoncé, mais dans tous les cas, quel que soit le motif pour lequel ce sera annoncé, je ne vois poindre que des mauvaises nouvelles, en tout cas. Et pas du tout l'idée que la Russie serait sur le point de s'effondrer. Et encore une fois, et c'est ce que je dis depuis le début de ce conflit, je pense que chaque fois qu'on nourrit des espoirs de ce genre-là, ce sont des espoirs extrêmement nocifs parce que c'est sur la base de ces espoirs que les Occidentaux, en particulier les Européens, ont considérablement atermoyé depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris les décisions difficiles qu'il aurait fallu parce qu'on a toujours espéré pouvoir échapper à ces décisions difficiles par une espèce de miracle, mais qui était perçu comme étant quelque chose de tout à fait probable, c'est-à-dire ben, la mort de Poutine de Parkinson, le fait qu'il soit renversé par des opposants, le fait que la population se soulève parce qu'il allait mobiliser, etc., etc. On n'a rien vu de tout ça, et encore une fois, c'est normal, parce que c'est pas la mentalité, on n'a jamais vu d'impérialiste revanchard tomber là-dessus. En revanche, on a vu une escalade continuelle, et un pays qui s'est mis tellement, et ça aussi c'était prévisible, qui s'est mis tellement en mode guerre, qui est clair pour tout le monde maintenant, qu'il ne peut pas se démettre du mode guerre. C'est-à-dire qu'en gros, Vladimir Poutine ne peut pas arrêter sa guerre, parce que ça oblige ensuite à dealer avec tout ce que ça signifie. C'est-à-dire que la pression retombe, le fait d'être dans le combat, la mobilisation de combat diminue, donc on commence à se poser des questions, à se demander si ça valait la peine. Le discours redevient un petit peu, la parole commence à se libérer. Vous avez des tas de gens qui reviennent du combat, qui ont été blessés, etc., qui commencent à parler, qu'il faut réoccuper, qui souvent tendent à verser dans le crime ou dans le crime organisé parce que il faut bien continuer à vivre, surtout quand on les a habitués à les payer très cher, puisque c'est comme ça qu'on les a recrutés. Donc en gros, c'est juste une dynamique qui n'est pas possible. C'est une boule de neige qui roule depuis trop longtemps, qui peut pas être arrêtée et donc qui va au bout de sa logique. Et c'est exactement ce que font toujours les impérialistes revanchards qui se lancent comme ça dans l'aventure extérieure et qui l'osent. Donc j'ai envie de dire le bateau coule normalement, encore une fois. Et malheureusement, tout, que ce soit la lenteur européenne, que ce soit comment dire, que ce soit la volonté de continuer à se battre russe, pointe dans le sens que en fait on imaginait et que je vous ai mentionné sur cette chaîne depuis 3 ans maintenant. Le seul truc qui me surprend, effectivement, et qui fait qu'en fait, d'une certaine manière, la situation est encore pire, c'est que un truc que j'avais dit dès le début, c'est que je pensais que les Européens feraient preuve de cette mollesse-là, qu'ils n'auraient pas la force de prendre les décisions qu'il faut, etc. En revanche, je pensais que les États-Unis seraient beaucoup plus impliqués dans le truc. Et assez clairement, c'est ce qu'on voit pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment pas envie. D'une certaine manière, est-ce que c'est surprenant quand on y pense? À la fin des années 30, l'Angleterre était encore moins motivée à faire la guerre que la France, le cas échéant. Il y avait une volonté aussi un petit peu isolationniste dans ce sens-là. Donc de la part de la thalassocratie américaine aujourd'hui, c'est pas forcément surprenant. Et puis il y a aussi un autre point qui est que c'est ce dont je parle depuis le début là aussi, c'est le syndrome de la guerre d'avant. C'est-à-dire que dans l'esprit. C'était déjà le cas des élites américaines sous Biden, mais en réalité c'est pareil dans l'esprit de Trump. Il y a un petit peu l'idée qu'au pire, on gagne la guerre en rejoignant la guerre froide, alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que, encore une fois, s'il y a cette question de tenir 5 minutes de plus, et que les Russes tiennent 5 minutes de plus, ça peut tout changer, hein. C'est-à-dire que si jamais les Russes tiennent 5 minutes de plus, ils peuvent remporter une victoire totale ou quasi totale en Ukraine. Remporter une victoire totale ou quasi totale en Ukraine, ça veut dire derrière récupérer une partie de leurs assets, récupérer une capacité de mobilisation forcée peut-être même vers des populations ukrainiennes qui l'ont pas été jusqu'à maintenant, et avoir encore c'est-à-dire tenir 5 minutes de plus, mais avec une armée qui sera encore très volumineuse et qui pourront pas récupérer chez eux. Et donc, qui pourra être lancé en d'autres endroits. Et donc, à ce moment-là, vous prenez à ce moment-là la Russie qui aurait tenu que 5 minutes de plus. Ça ne veut pas dire qu'elle est épuisée à ce moment-là. Au contraire, c'est-à-dire qu'elle peut repartir en avant. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que ça peut avoir un effet rebond total. Et c'est même probablement ça qui risquerait d'arriver dans un tel cas. L'autre scénario, encore une fois, mais je ne m'étends pas là-dessus parce que je le mentionne régulièrement, mais l'autre scénario, c'est que la nouvelle offensive russe bloque aussi et qui se lance dans les pays baltes pour essayer justement de débloquer la situation. Ça, encore une fois, ça, c'est le scénario japonais. C'est toujours les deux scénarios qui sont à ce stade toujours indécidables, selon moi, mais qui sont toujours l'un en parallèle de l'autre et qui menacent l'avenir de la situation dans cette région-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. On va passer éventuellement aux questions, mais d'abord, mon petit mot habituel. Si vous êtes là depuis 1, 2 ou 3 ans, vous avez vu l'historionomie avancer, vous avez vu les concepts se préciser au fil de certaines émissions, vous avez vu des livres sortir et incarner cette production intellectuelle. Depuis le début, donc, la chaîne et moi-même sommes fidèles à cette promesse qui est que nous soutenir, c'est soutenir en fait pas juste une chaîne YouTube comme les autres, c'est une entreprise intellectuelle et scientifique. On ne fait pas que blablater sur l'actualité en disant en gros payez-nous pour ça. Ceux qui font ça, il y en a, ils sont nombreux. Ils peuvent sans doute apporter un plaisir de visionnage à leur public, mais dans le même temps, il n'en restera rien. Alors que ici, on bâtit quelque chose. Des instruments intellectuels qui aident les individus et les groupes à mieux se comprendre. Les livres vivront, les concepts resteront, et une communauté de recherche s'est construite pour accélérer le mouvement. Et dont vous verrez d'ailleurs les fruits bientôt, avant un an probablement, et même avant ça, vous en verrez les prémices avec les images du congrès qui vont bientôt sortir. Et tout ça, alors encore une fois, que j'ai encore un métier à plein temps à assumer, mais sans ceux d'entre vous qui nous soutiennent, ces avancées de mes recherches depuis 3 ans, en fait, auraient été impossibles ou nettement moindres. Donc nous soutenir a vraiment un effet significatif, et en plus, c'est s'associer à une aventure qui a du sens et qui fera date. Donc je vous le dis encore, rejoignez nos soutiens, et vous pourrez dire que c'est aussi votre œuvre. Vous pouvez soutenir pour avoir des contreparties avec plus de contenu, vous pouvez soutenir juste gratuitement, comme ça. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit, donc même juste un petit type sympa, mais régulé si possible, comme ça nous donne de la visibilité. On prévoit encore des choses à la fin de l'année, en particulier des grosses campagnes de promo YouTube pour essayer d'arriver aux 100 000 abonnés à la fin de l'année, et ça, il nous faut aussi de la visibilité pour y arriver. Donc vous avez été un certain nombre à nous soutenir déjà et à nous rejoindre de manière récurrente le mois dernier. Je vous en remercie. Vous avez été un certain nombre à nous rejoindre aussi ponctuellement. Je vous en remercie aussi. Mais voilà, nous, on recommence tous les mois. On est à nouveau là tous les mois. Donc n'hésitez pas à être là aussi, vous, tous les mois, pour nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions, mon cher Léo?
Tu parles d'or. Nous sommes effectivement une entreprise intellectuelle et nous avons besoin de nos actionnaires pour nous développer. Donc nous servons, nous, c'était quoi déjà le terme, cher à Lucien? Nous maximisons la shareholder value et nous avons besoin de maximiser le volume des shareholders également. Donc rejoignez-nous effectivement. Je sais pas s'il y a vraiment des questions, en tout cas il y a des choses à annoncer.
Ouais.
Concernant les conférences du congrès, j'avance. Voilà, je ne veux pas plus, mais j'avance. Et la fosse, qui nous a rejoint en tant que frère historionome. Donc,
Bienvenue, merci.
bienvenue et merci. Antoine T, qui a donc son 38e mois consécutif en tant que maître historionome, il nous dit bisous.
Merci de ta fidélité et voyez, nous avons de proches chevaliers comme ça qui sont là depuis longtemps, qui ont leur ancienneté, qui sont un peu des patriciens de l'historionomie et l'histoire s'en souviendra.
Et on remercie Yului qui a offert 5 souscriptions.
Merci.
Ce qui me rappelle encore une fois qu'il faut absolument qu'on change cette souscription à 5 euros. Voilà, je sais que c'est facile de le dire, mais.
Alors, a priori, je pense que ça changera. On est en train de faire ça avec Léo. Ça devrait changer à la date du 1er août, je pense. On ne va pas le faire en avance parce que. Mais voilà. On va essayer de le faire à une jonction de mois, en tout cas.
Say no more. Pour mon anniversaire, je suis prêt à tout risquer.
Et voilà.
Donc, c'est très bien. Question de difficile. Math Bro Shaker. Qui nous dit, donc on remercie pour son don, et il nous dit la
Merci.
Chine, ce premier don, je pensais à un nom comme ça, on serait souvenu, donc merci. La Chine soutiendrait-elle encore la Russie si cette dernière attaquait les Pays-Baltes?
Alors oui, je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'au plan stratégique, ça serait peut-être même encore mieux pour la Chine. C'est-à-dire que pour le coup, ça obligerait les États-Unis. Parce qu'actuellement, pour les Chinois, c'est un petit peu gênant. Le fait que Donald Trump veuille se détacher. En fait, c'est la vieille stratégie américaine depuis Obama déjà, hein, pour accentuer le pivot vers l'Asie, et qui est la stratégie américaine de la présidence Trump. Hein, je veux dire, Pete Hegseth l'a dit de manière tout à fait claire au début de son arrivée au Pentagone. Il a expliqué, en gros, aux Européens, c'est à vous de dissuader la Russie. Parce qu'on ne peut pas tout faire et nous, on doit s'occuper de la Chine. Donc très clairement, la Chine a entendu le message. Si nous l'avons entendu, la Chine l'a entendu. Et donc, l'intérêt de la Chine, c'est il faut que les Européens merdent contre l'Ukraine pour que les Américains soient obligés d'aller en Europe et pour que nous, on ait le maximum de mains libres et de tranquillité de notre côté. Voilà, de manière tout à fait claire. Donc la Chine, l'idée de l'amitié sans limite entre la Chine et la Russie, sur cette question, c'est véritablement vrai. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, la Chine ne laissera jamais tomber la Russie tant qu'elle n'aura pas réussi à remporter ses propres objectifs stratégiques contre les Américains.
On remercie Dr Sherlock pour son don.
Merci.
Et il nous dit une vérité, Philippe.
Oui.
La vérité est la suivante. Le congrès historionomique était incroyable. Organisation parfaite. Super ambiance. C'était génial. Big up à tous les organisateurs.
Bien sûr. Et on remercie en particulier Monsieur A, le grand organisateur en chef, Adrien, qui a nourri tout le monde, Hiruma, qui est omniprésent, et tous les autres, bien sûr.
Et bien sûr, la société McKinsey, qui a géré en grande partie l'organisation et la rédaction des slides. On s'en est bien sorti niveau prix. Côté Tipeee, je pense qu'on peut remercier, je sais plus quand était le dernier live.
Alors attends, déjà sur YouTube, il y a des gens qui se sont rajoutés dans la semaine. Alors je pense qu'on doit dire bienvenue à André Caron, qui d'autre? Adrien Forestier, Benoît Louis-Georges, et c'est tout. Après, c'est des réabonnements. Merci de votre fidélité à tous ceux qui se sont réabonnés. Et donc, Tipeee, je te laisse regarder.
Oui, donc je pense qu'effectivement on s'est arrêté là. Donc bienvenue à Philippe Bazar, à JBW, à Cubilé, à Zouk, qui nous dit...
Je pense que ça se prononce Kubilai, comme Kubilai Khan, mais...
Ouais, bah écoute, merci. Zouk qui nous dit bonjour Philippe, merci de nous offrir ta vision globaliste de la situation géopolitique actuelle mondiale, à l'heure des chaînes d'information en continu qui nous abreuvent à longueur de journée, de news plus anxiogènes les unes que les autres, et qui ne sont focalisées uniquement que sur les détails. Il est effectivement essentiel et crucial de prendre 2 pas de recul afin d'analyser la situation d'un point de vue général, pour mieux en comprendre les enjeux éventuels, les situations, les événements et leur contexte, et de les resituer, pardon, dans la globalité du monde dans lequel nous vivons. Donc un grand merci pour ton travail. Bonne continuation, Cyril.
Merci.
Je te faxais les 37 pages qui accompagnent ce
Merci.
texte. Tu me feras un plaisir de les lire et de les résumer pour la prochaine émission. On remercie Squal SRV. Donc là, tu vas sûrement me dire que ça se prononce Squalsra ou je sais pas quoi. On
Non,
remercie. Alors, il dit bravo pour votre travail. On remercie Simon qui dit c'est Nicolas qui paye. On remercie Darius, Tim, Jim Raynor qui nous dit je sais pas quoi. C'est du beau. Ouais.
Démat Déoc, évite. Oh, alors,
C'est de
on
l'orque ou
dirait
c'est de
du.
l'elfique ou c'est.
Non, je pense que c'est breton,
C'est ce que je pense.
mais je parle pas breton.
Pour moi, c'est de l'orque.
Je connais que Diwan Diedrouz, Maropaden, moi, mais ça n'a pas de. Je sais pas. Il faudra
J'essaie
nous le
de
dire.
chercher, mais...
Apparemment, Démat Déoc, c'est un. C'est
Bonjour pour
une.
vous encourager, apparemment, ça veut dire.
Ah,
Le tout.
d'accord.
Ouais. Le tout veut dire bonjour pour vous encourager.
Excellent.
Venturio, merci. Et M12 qui nous dit merci pour vos travaux. À quand un épisode avec Peter Collins ou Bernard Lugan? Je sais pas qui est Peter Collins.
C'est un type qui est sur Twitter.
Ok.
Mais je sais pas s'il fait des vidéos aussi.
À l'instant, on remercie Rémi Bayeux, qu'on connaît bien, pour son tip. Il nous dit, avez-vous pu prendre un peu de repos? La réponse va le surprendre. Des vacances de prévu, la réponse va le surprendre. Portez-vous bien et merci encore pour votre travail.
Merci. Ouais, du repos, non, pas trop pour l'instant. Je pars en congé. Vous n'aurez pas de nouvelles de moi la première semaine d'août. Enfin, du 2 au je sais pas quoi. Parce que je suis pas là. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il n'y aura rien. Et du coup, ça permettra à Léo de passer un bon anniversaire, n'est-ce pas?
Bah surtout si tu m'as dit qu'on changeait les prix, c'est ça mon cadeau quoi. Mais ouais, écoute, bon anniversaire. Hein. Quand t'as aucune attente, tous les anniversaires sont excellents.
Ça. C'est ça.
Voilà, donc tout va bien. Écoute, je pense qu'on a terminé.
Eh bien,
Petite heure, petite
nous
heure.
allons rejoindre nos très chers souscripteurs dans le live privé. Et je dis merci à tous ceux qui étaient là et qui regardent et qui écoutent. Puisque rien que ça, vous savez, rien que regarder, écouter et prendre, essayer de prendre un petit peu la démarche intellectuelle au sérieux, il suffit de voir hein, ce que me disent certaines personnes sur Twitter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, déjà, vous faites partie du dessus du panier. Et voilà. Donc merci. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi en dessous de la vidéo et pas juste dans le chat. Ça redonnera un coup de fouet à l'algorithme. On vous retrouve bientôt pour de nouveaux sujets. Vous laissez